nos modes de production, le système économique. Et donc tout ça est en train d'être un petit peu bousculé aujourd'hui.
Mais du coup, au vu de ces évolutions-là, au vu de la nécessaire transversalité que prône la charte, que Gilles Toussaint a d'ailleurs lui-même signée, est-ce qu'avoir des pages Planète dans le journal, ça a encore du sens ?
C'est aussi une question que je me pose, et que je me pose depuis longtemps. Je pense que ça n'aura plus de sens le jour où tous les journalistes, dans tout, qui travaillent aussi bien en politique, sur du social, sur même du sport, de l'économie, de l'énergie, des transports, auront quelque part dans leur tête ce petit réflexe de dire, tiens, est-ce que mon sujet, est-ce que le critère climat est pris en compte quelque part ? Ça ne veut pas dire que... tous les papiers, vous devez avoir ce mot-là, mais qu'il y ait qu'on ait intégré le fait que c'est la matrice globale dans laquelle il faut penser les sujets qu'on traite. Le jour où on arrivera à ça, je pense que les pages Planète ne seront plus nécessaires, et en gros, c'est la définition de développement durable. Hein. C'est le social, l'économie, l'environnemental qui sont complètement pris en compte dans tous les domaines. Après, on n'y est pas encore. Donc, il y a un certain nombre de journalistes qui commencent à s'intéresser à ces questions, effectivement, dans leur champ de compétences. Je prends le cas de l'énergie, par exemple, je pense à mes collègues ici, qui ont maintenant pleinement intégré le fait qu'énergie renouvelable, c'était de l'énergie, que les marchés carbone, c'était de l'économie, que la question agricole, c'est à la fois du climat, mais aussi de l'économie. Enfin, donc, il y a des évolutions. Ce n'est pas encore le cas de tout le monde. Je pense qu'il y a des gens... qui jugent que ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient, mais qui sont un peu bloqués, parce qu'il faut dire ce qui est, les matières environnement et climat sont d'une part souvent un peu techniques, un peu scientifiques, donc ça peut rebuter. Et d'autre part, on est rarement dans le positif, on n'a pas une étiquette, c'est pas très réjouissant. Je pense qu'il y a encore des freins par rapport à ça, et qu'en ce sens, les pages Planète se justifient toujours. Mais j'ai pour habitude de dire, de marteler, de répéter que les pages Planète ne doivent pas être une réserve naturelle. C'est pas le truc où on n'a pas envie de faire, ce qui est encore trop souvent le cas, donc on renvoie vers l'équipe Planète en disant « Ah, mais regardez, c'est pour vous, il est mis green, il est mis durable, voilà. »
Pour le journaliste de la Libre Belgique, si on veut changer la donne sur ce point-là, ça passe aussi par la conscientisation et la formation des journalistes dans les écoles, mais aussi via de la formation continue pour ceux et celles qui sont déjà dans les rédactions, afin que tout le monde soit équipé sur cet enjeu transversal.
Ne fût-ce que les concepts de base, rappeler un peu ce que c'est le réchauffement climatique, comment ça fonctionne, la différence entre CO2 et couches d'ozone, les questions de biodiversité, les liens avec d'autres, avec justement tous les champs de la société, parce qu'aujourd'hui, il y a encore, même dans le monde journalistique, alors je suis peut-être très prétentieux à ça, mais me semble-t-il un gros déficit de connaissances qui fait qu'il y a des blocages qui se posent dans la prise en compte de ces questions. Même si les nouvelles générations semblent beaucoup plus ouvertes à cette idée.
Une forme de méconnaissance, du conservatisme aussi, à entendre Gilles Toussaint, ce qui n'est pas forcément étonnant quand on sait à quel point les questions climatiques et environnementales viennent questionner tout un système et forcément toute l'inertie de celui-ci. Tiens, j'ai envie de savoir, est-ce que Gilles Toussaint se fait lui aussi qualifier de militant écologiste au départ de son travail journalistique sur ces questions ?
Oui. Oui, bien sûr, mais depuis des années, je pense que poseriez la question à mon collègue du soir, Michel Le Melenard ou à d'autres, il vous dirait un peu la même chose. Je crois qu'on est effectivement un peu perçu automatiquement comme, moi je le dis toujours en rigolant ici, je suis le petit homme vert de la rédaction. Pour être franc, c'est quelque chose contre lequel j'ai un peu cessé de lutter. Voilà, je pense que ma ligne de conduite reste le journalisme, donc je me base sur des faits, je fais du tri dans les faits, donc je rapporte parfois des choses qui me déplaisent aussi, ou avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Je fais mon boulot de journaliste comme un autre journaliste. C'est vrai que c'est un peu irritant d'être automatiquement considéré, on vous met une étiquette, qu'on ne mettrait pas un journaliste sportif, ou même un journaliste politique quand même, on le remet un petit peu, mais de manière globale, il y a un a priori très clairement là-dessus. Il a fallu aussi, même si je pense les choses évoluent, de nouveau, malheureusement, que les choses deviennent concrètes pour qu'on soit un peu pris au sérieux, qu'on se rende compte que ce qu'on écrit depuis... moi, je ne suis jamais qu'une caisse de résonance, hein, ce n'est pas moi le scientifique, mais que ce qu'on écrit depuis des années, ce n'était pas de la blague, et que ce que les scientifiques expliquent depuis longtemps n'est pas de la blague, c'est sérieux et c'est concret. Donc, quelque part, la crédibilité du travail qu'on fait depuis des années, malheureusement, n'apparaît que que quand des événements désastreux se produisent, ça ne rend pas forcément populaire. Mais en même temps, il y a un autre paradoxe qui est que d'un côté, je vais être perçu comme militant par certains, que ce soit des journalistes de la rédaction sans doute, ou même à l'extérieur, et donc en gros trop impliqué dans les questions environnementales. Et de l'autre, on va me reprocher dans l'autre camp de travailler dans un journal mainstream, et donc comme un féodé au grand capital, et de ne pas en faire assez sur le climat et sur l'urgence climatique. Donc voilà, j'en suis arrivé à la conclusion que finalement je faisais honnêtement mon travail et que je ne plairais jamais à tout le monde, et c'est pas ça le but du jeu. Mais c'est vrai que c'est un côté parfois un peu irritant d'être systématiquement considéré comme militant, notamment par exemple quand je suggère à ma rédaction que chacun s'implique un petit peu dans ces questions et prenne ça à bras le corps, bah, il m'est revenu que certaines personnes le prenaient mal parce qu'elles semblaient penser que je leur demandais de devenir militant climatique, ce qui n'est absolument pas le cas.
Pour élargir le débat sur cet enjeu, j'ai aussi lancé un petit sondage sur Twitter en posant une question a priori toute simple. À partir de quel moment, selon vous, un journaliste qui traite des questions climatiques devient-il militant ? Et j'ai reçu plus de 250 réactions. Impossible de tout résumer ici, évidemment, mais voici quelques réponses qui ont retenu mon attention. Lionel, par exemple, qui me disait qu'un journaliste devient à ses yeux militant lorsqu'il met en avant des aspects purement subjectifs ou que sur telle ou telle solution, il ne montre qu'un seul côté de la médaille, les avantages et pas les inconvénients, par exemple, ou l'inverse. Cyril estime, lui, qu'un journaliste est journaliste quand il relaye des faits établis et que ceux qui le considèrent comme militant sont ceux qui voient dans ces faits des menaces à l'égard de leur confort personnel. Pour Pasquale, un journaliste devient militant quand il ne maîtrise pas ses biais cognitifs. Selon François, on passe à la militance quand un journaliste essaye d'imposer ses propres opinions plutôt que de relayer des faits qui permettent de s'en forger une. Ou encore quand une information fausse est donnée sur antenne et que le journaliste ne la corrige pas. Mais beaucoup de tweetos estiment aussi que l'on fait beaucoup de faux procès en militantisme, que qualifier de militants des journalistes qui avancent des vérités qui dérangent est souvent le fait de personnes qui ne veulent pas entendre certaines réalités scientifiquement prouvées, des personnes qui seraient en quelque sorte militantes du statu quo. Creuser un peu plus loin cet enjeu-là, cette idée qu'il y aurait des vérités qui dérangent, des réalités scientifiquement prouvées, arguments souvent avancés par les journalistes, et je m'y inclus d'ailleurs, pour contrer les procès en militantisme, j'ai pris rendez-vous avec un spécialiste en épistémologie, c'est-à-dire l'étude critique des sciences. Il s'appelle Olivier Sartenard, professeur en philosophie des sciences à l'UNAMUR. Et j'ai commencé par lui poser une question à la fois simple et essentielle. Est-ce que ça existe, au fond, une vérité scientifique ?
Alors, mais a priori, je dirais en toute rigueur, moi j'aurais tendance à penser que non. Mais évidemment, ça peut faire office d'un abus de langage. C'est-à-dire qu'on peut très certainement parler de vérité scientifique si par ce mot-là, on signifie quelque chose de l'ordre de quelque chose de bien établi, quelque chose de relativement fiable ou quelque chose qu'il est rationnel de tenir pour vrai. Alors là, évidemment, on peut parler dans ce sens-là de vérité scientifique. Mais si par vérité scientifique, on signifie plus que cela, donc à savoir quelque chose de l'ordre du vrai avec un grand V, de la certitude, donc de l'impossibilité que ça soit faux, alors là, non. Par contre, là, je pense que c'est impossible de parler de vérité scientifique en ce sens-là, dans la mesure où, étant des êtres cognitifs limités, les êtres humains, et même si on s'aide avec des appareillages de plus en plus sophistiqués, ils sont aussi également limités à certains égards. On ne peut jamais prétendre avoir un accès parfait au monde qui nous entoure, ce qui fait que demeurent toujours des possibilités de nous tromper. Et à partir du moment où demeurent toujours des possibilités de nous tromper, ben, la certitude d'arriver à une vérité avec un grand V, je dirais, s'efface.
Mais du coup, est-ce qu'un journaliste peut parfois dire qu'il y a des éléments scientifiques qui prouvent qu'il a raison ?
Alors, mais c'est différent de dire qu'il y a une vérité et de dire de prouver qu'on a raison, parce que ça dépend de ce qu'on entend évidemment par raison. Moi, ce que j'entends par raison, c'est plutôt ce qu'il est rationnel de croire. Il est tout à fait rationnel de croire parmi un panel d'informations ou de croyances qui nous sont présentées, qui sont éventuellement en opposition les unes avec les autres, il est rationnel de croire la plus fiable d'entre elles. Donc ce que la science prodigue, ce que je pense la science prodigue, ce sont les informations parmi les plus fiables possibles, étant entendu l'état des connaissances à une époque donnée, c'est évidemment appelé à évoluer, et donc on peut dire j'ai raison de tenir pour vraie celle qui est la plus fiable, sans avoir à penser pour autant qu'elle ne sera pas invalidée, transformée, complétée à l'avenir. Donc la question d'avoir raison est assez dissociée de la question de la vérité, en fait, à certains égards, paradoxalement.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de lire un rapport du GIEC, mais c'est assez frappant de voir qu'on n'y parle jamais de certitude absolue, plutôt de degrés de confiance associés aux différentes conclusions, allant de l'exceptionnellement improbable, entre 0 et 1% de degré de confiance, au quasiment certain, c'est-à-dire entre 99 et 100% de degré de confiance. Et évidemment, dans les rapports résumés, ceux qui sont écrits à destination des décideurs, ce sont les données avec les indices de confiance les plus élevés qui sont repris.
Exactement, et ça je pense qu'à cet égard, les rapports du GIEC, et à d'autres égards aussi, mais à cet égard, les rapports du GIEC sont absolument, je dirais, irréprochables, c'est-à-dire qu'ils ont la modestie, mais je pense la modestie raisonnable et imposée même, que de reconnaître que chacune des affirmations qu'ils avancent, effectivement, sont chaque fois pondérées d'un facteur de confiance, hein, selon probable, très probable, absolument presque, et sans jamais, effectivement, arriver au 100% certain. Donc je pense qu'ils ont bien intégré le fait, et je pense que c'est stratégique aussi, hein, de leur part, d'intégrer le fait qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avancer des certitudes, pour une raison déjà, je dirais, assez banal, que s'il y a un rapport suivant qui sort, qui va dire le contraire que ce qui avait été affiché comme parfaitement certain, ils sont décrédibilisés fortement.
En cela d'ailleurs, le fonctionnement du GIEC, qui fédère, analyse, critique et synthétise des études de scientifiques du monde entier, est une parfaite illustration du fonctionnement de la science, de la controverse en science, un fonctionnement qui s'apparente à une forme de sélection naturelle.
En fait, un débat scientifique, je pense qu'il y a une métaphore qu'on peut évoquer pour essayer de le capturer, c'est la métaphore un peu darwinienne. De la même manière que vous avez des individus dans le monde biologique qui vont être en compétition pour la survie et dans un environnement donné vont développer des adaptations qui vont faire en sorte qu'ils vont se maintenir et les autres vont disparaître, mais c'est un peu pareil dans un débat scientifique, c'est-à-dire que vous avez des conjectures, des hypothèses, des théories qui sont avancées, qui rentrent dans une sorte de compétition qui n'est pas régulée, il n'y a pas un organisme central qui organise cette compétition, elle se fait d'elle-même entre les scientifiques, dans les discussions, dans les publications, et vont en fait simplement mourir ou disparaître ces hypothèses qui n'intéressent simplement personne, qui vont simplement ne pas récolter d'assentiment de la communauté, notamment d'abord et avant tout parce qu'elles sont assez faibles en termes de justification. Et donc vont être conservées, vont être bien adaptées à l'environnement donné, en fait des théories qui rassemblent un certain nombre de justifications. Et donc quelque part l'enjeu de ce débat-là est donc celui-ci, est de dire qu'il n'y a pas d'instance centralisée qui va nous dire voilà ce que vous devez croire, voilà ce que vous ne devez pas croire. Quelque part c'est cette visée de vérité, de fiabilité, qui va faire le filtre, qui va faire un filtre automatique, ce qui explique le fait, par ailleurs, qu'en science, on ne se sent pas tenu d'écouter les opinions minoritaires, pour la simple et bonne raison que ces opinions minoritaires, si elles n'ont pas passé ce filtre dans la mesure où elles n'ont pas donné les justifications de penser qu'elles méritaient notre attention, et donc, quelque part, c'est le fait de dire les opinions minoritaires, j'aime pas le mot opinion, mais disons les conjectures minoritaires dans le débat scientifique, vont disparaître d'elles-mêmes, toujours jusqu'à preuve du contraire. Et les opinions majoritaires, les plus adaptées, celles qui rassemblent le plus l'assentiment en raison d'une grosse qualité de la justification, vont toujours se hisser au sommet, sans jamais devenir absolument certaines ou vraies, mais toujours jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve avant qu'une autre hypothèse plus compétitrice éventuellement soit amenée sur le devant de la scène.
Ces dernières années, on a l'impression que le débat sur la fiabilité des rapports du GIEC s'est progressivement éteint et que plus grand monde n'ose aujourd'hui s'opposer aux conclusions des scientifiques sur le climat, tant les aspects visibles et palpables du réchauffement ont tendance à se multiplier ces dernières années, même sous nos latitudes. Le débat s'est déplacé sur les solutions, sur les choix de société à poser. Avec là encore, de vraies contestations de paroles scientifiques, et notamment celles de ceux très majoritaires qui nous disent que nous n'aurons pas le choix demain, qu'il va falloir consommer moins. Pour Olivier Sartenard, ce déplacement dans la contestation de la science n'est pas vraiment surprenant. C'est en général quand la science dérange un ordre établi qu'elle suscite la controverse.
quand les sciences nous disent quelque chose qui n'a pas d'impact vraiment délétère sur notre vie, hein, les continents dérivent, ben oui, d'accord, je leur fais confiance, parce que ça, de toute façon, ça ne va pas changer ma vie outre mesure. Par contre, si les scientifiques viennent me dire que je dois modifier ma manière de vivre, ou si je dois fondamentalement adapter mes comportements d'une manière que j'estime être en conflit avec mes libertés personnelles, ben là, le jeu commence à en valoir la chandelle. On peut dire, ben là, je peux commencer à m'opposer à la figure du scientifique, parce que quelque part, ça me coûte beaucoup trop cher, ou j'estime que ça me coûte beaucoup trop cher, quelque part, si je devais lui faire confiance de la même manière que j'ai tendance à lui faire confiance pour toute une série d'autres paramètres sur lesquels, fondamentalement, j'ai pas de problème personnel ou identitaire qui viennent s'y ajouter.
Et le débat, à le voir sur les réseaux sociaux, s'articule de plus en plus entre les tenants de la sobriété, voire de la décroissance, et ceux qu'on pourrait appeler les techno-optimistes, qui pensent que la technologie va nous permettre de trouver des solutions pour maintenir notre façon de vivre actuellement tout en sortant des énergies fossiles. Je caricature un peu l'opposition en fait en disant cela, mais justement cette impression parfois de bataille entre deux camps renforce l'aspect caricatural de l'opposition. Alors que quand on lit bien la plupart des scientifiques qui s'expriment sur ces questions, même du côté des ingénieurs très impliqués dans des projets technologiques pour assurer notre transition énergétique, on entend plutôt l'idée qu'il faudra marier progrès technologique et sobriété si l'on veut respecter les objectifs que l'on s'est nous-mêmes fixés. Ceci dit, Olivier Sartenard me rappelle qu'on ne peut quand même pas exclure qu'une innovation technologique vienne tout à coup fondamentalement changer la donne. Autant on peut prévoir de manière assez sûre l'évolution climatique, et c'est ce que fait le GIEC, autant il est très difficile de prévoir ce que l'innovation technologique pourrait nous apporter comme solution.
Évidemment, si advient une nouvelle technologie révolutionnaire dans 5 ans, ça évidemment un modèle climatique ne peut pas l'anticiper pour la simple et bonne raison que les modèles d'innovation technologique sont pour le coup eux très peu prédictifs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent de prédire l'advenue de nouvelles technologies, il y a une certaine prédictibilité mais elle est très mauvaise là pour le coup, et donc à une rupture technologique ça peut toujours un peu arriver de manière un peu inattendue, et ça je pense que c'est malheureusement un argument de beaucoup de personnes qui veulent temporiser plus que prendre des actions maintenant, c'est de se dire peut-être qu'on va avoir une rupture technologique très intéressante dans 3 ans, et ça c'est vrai que les recommandations actuelles faites à l'aune des modèles climatiques actuels ne peuvent pas les prendre en ligne de compte, puisque ça on ne peut pas avoir de prédictibilité très bonne et très fiable à cet égard.
Oui, ça c'est très intéressant. Donc ça veut dire que ceux qui disent oui mais technologiquement tout d'un coup, je ne sais pas moi, la fusion nucléaire va être possible et ça va tout changer, n'ont pas tort de se dire que ça peut arriver, même si on voit bien, parce que ça fait très longtemps qu'on cherche, qu'on n'y arrive pas, etc., mais même si c'est assez peu probable, ils ont raison de dire que c'est toujours possible. Sauf qu'entre-temps, ça retarde le fait d'avancer dans le cadre d'un scénario où, pour le coup, on ne trouverait pas, et où alors on pourrait se retrouver dans une situation pire que celle dans laquelle on est aujourd'hui.
Oui, exactement. Donc ça, je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens disent que c'est un peu un vœu pieux d'attendre une innovation technologique qui pourrait survenir, et c'est vrai, elle changerait la donne, cette innovation technologique, que ce soit la fusion, des méthodes révolutionnaires de captation de CO2, ou que sais-je. Pour le moment, c'est vrai qu'on a assez peu d'éléments qui indiqueraient que ces révolutions arriveront demain, et comme on est dans précisément une temporalité où on commence à réaliser que chaque année compte, c'est vrai que je pense que c'est assez raisonnable de ne pas miser toutes nos cartouches exactement sur ce genre de possibilités très hypothétiques, et que donc il faut prendre au sérieux le pire des scénarios. C'est le scénario où il n'y aurait pas d'innovation technologique ou de rupture technologique dans un avenir très proche. Et là, à cet égard, pour le coup, en revenir aux modèles climatiques et aux trajectoires qu'ils proposent, qui, elles, sont relativement bien établies.
Pour dévoiler un peu mes cartes journalistiques sur le sujet, je pense avoir compris, au fil des lectures, des rencontres, en croisant les sources et en approchant les enjeux de manière transversale, que le chemin le plus raisonnable, donc, va imposer des changements dans nos modes de vie et de consommation. Et que compter aujourd'hui sur la seule technologie pour nous permettre de maintenir en l'état notre modèle archidopé aux énergies fossiles est un pari extrêmement incertain et risqué, surtout s'il nous prive d'agir dès aujourd'hui sur les leviers que nous avons déjà. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faudrait délaisser l'innovation technologique. Bien au contraire, il y a quantité de recherches très prometteuses qui vont nous aider à dessiner le monde de demain. Mais quand on a dit cela, on n'a encore rien dit, en fait. Il reste quantité de choix de société à poser pour l'avenir. en connectant les questions sociales, économiques, psychologiques, technologiques, philosophiques. Ce qui serait militant à mes yeux, ce serait de dire qu'il y a un seul chemin possible, alors que je pense que notre métier consiste au contraire à fournir, avec toute la pédagogie et la rigueur possible, le maximum d'éléments factuellement étayés pour permettre à chacun et chacune de poser individuellement et collectivement les choix essentiels face aux tournants qui nous attendent. Bernard, ce qu'il aurait, lui, à donner en tant que philosophe des sciences comme conseil aux journalistes sur ces enjeux, lorsqu'ils ont en particulier à traiter de matières scientifiques. Et voilà les deux conseils auxquels il songeait.
C'est d'une part d'abord de communiquer correctement les rapports de force, c'est-à-dire d'avoir une communication claire sur l'état d'un consensus. Et je sais que ça c'est difficile parce que c'est même pas clair pour les scientifiques eux-mêmes ce qui fait consensus. Mais par exemple, là, à cet égard, les rapports du GIEC sont assez transparents, et donc je pense qu'être fidèle à cette transparence, ce serait vraiment un premier enseignement.
Autrement dit, quand on a 98% de scientifiques dans un domaine spécifique qui sont d'accord sur une conclusion et que l'on décide quand même d'inviter l'un des représentants des 2% qui ont un avis très minoritaire, il faut avoir l'honnêteté de le dire au moins et réfléchir au temps d'antenne consacré à des opinions que la démarche scientifique a progressivement justement mis de côté.
Et un deuxième enseignement, ou une deuxième recommandation qui est plus générale, qui ne concerne pas que le climat, mais quand même, c'est d'apprendre pas à simplement communiquer les résultats, à simplement communiquer ce que nous disent les scientifiques, mais apprendre à communiquer avec les scientifiques les raisons pour lesquelles ils disent ce qu'ils disent, parce que je pense que la question qui nous importe beaucoup dans toute la problématique contemporaine, c'est la question de la confiance. Et la confiance ne vient pas quand on nous assène des vérités au visage, la confiance nous vient aussi par la compréhension. C'est-à-dire que c'est parce qu'on voit bien pourquoi